VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du 25 janvier 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Malabo confirme avoir offert toutes les garanties de sécurité et d'un séjour pacifique à Yahya Jammeh, l'ex-président gambien réfugié en Guinée équatoriale.
En Côte d'Ivoire, où se poursuit la grève des fonctionnaires, les responsables syndicaux souhaitent une rencontre avec le président Alassane Ouattara.
En République démocratique du Congo, une peine de 5 ans de prison a été requise contre l'opposant Jean-Claude Muyambo, un transfuge de la majorité présidentielle.
La nomination de Nikki Haley au poste de représentante permanente des États-Unis à l'ONU a été approuvée à une majorité écrasante par le Sénat.
Et ne manquez pas notre journal de la CAN qui se poursuit au Gabon, ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'ex-président de la Gambie, Yahya Jammeh, a bien été accueilli en Guinée équatoriale après son départ samedi soir de Banjul pour l'exil sous la pression internationale. C'est ce qu'a confirmé pour la première fois Malabo mardi. Selon le porte-parole gouvernemental Eugenio Nze Obiang, le président Teodoro Obiang Nguema a informé le Conseil des ministres de sa décision d'accueillir M. Jammeh en tant qu'exilé politique en Guinée équatoriale. Pays frère qui lui offre toutes les garanties de sécurité et d'un séjour pacifique.
Au moins 8000 personnes qui avaient fui la Gambie par crainte de troubles sont retournées chez elles depuis le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh. Les détails avec Tatiana Mosso.
Les mouvements de retour se poursuivent, a indiqué le HCR. Le blocage en Gambie a déclenché une crise régionale et qui avait poussé plus de 76 000 personnes à se réfugier au Sénégal, a dit le HCR, précisant que ces chiffres concernaient la période du 1er au 22 janvier. Les dernières estimations communiquées le 20 janvier faisaient état d'environ 45 000 personnes arrivées au Sénégal depuis la Gambie. D'après l'agence onusienne, en plus des réfugiés qui s'organisent pour rentrer par leurs propres moyens, les autorités en Gambie envoient des cars aux postes frontaliers pour les aider à retourner chez eux. Des milliers de réfugiés ont été accueillis par des familles au Sénégal, ce qu'a souligné l'ONG Enda Tiers-Monde, saluant la mobilisation spontanée et fraternelle des familles sénégalaises. Le HCR exhorte les autorités gambiennes à poursuivre les efforts en faveur des déplacés, notant qu'il s'agit pour la plupart de femmes et d'enfants.
En Côte d'Ivoire, la grève des fonctionnaires déclenchée le 9 janvier et dont on avait pourtant annoncé la fin se poursuit. Les responsables syndicaux souhaitent une rencontre avec le président Alassane Ouattara en vue de décanter la situation bloquée. Abdourahmane Dia.
Théodore Nyanya Zadi, l'un des leaders syndicaux, a déclaré que les grévistes voudraient maintenant rencontrer le président ou son vice-président, accusant le chef de l'État Alassane Ouattara de ne s'être jamais prononcé sur leur mouvement. Il faut qu'ils disent quelque chose vu l'état de la situation, a-t-il indiqué, ajoutant que tout est bloqué et que le mouvement s'est renforcé sur le terrain. Lundi, des mouvements sociaux ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Abidjan, où des ex-militaires ont bloqué l'autoroute du Nord dans le siège de la grève des fonctionnaires qui paralyse le secteur de l'éducation. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certains arriérés de primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012 dont les premiers effets se font sentir depuis quelques mois. Les syndicats avaient pourtant annoncé la fin de leur mouvement, mais de nombreux observateurs estiment que les concessions faites aux militaires ont renforcé les fonctionnaires dans leur conviction qu'un durcissement de leur grève peut faire fléchir le gouvernement.
En République démocratique du Congo, une peine de 5 ans de prison a été requise contre Jean-Claude Muyambo, un des anciens alliés du président Joseph Kabila, devenu opposant. Les précisions d'Eddie Isango.
Le ministère public a demandé hier au tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema de condamner Jean-Claude Muyambo à 60 mois de servitude pénale. L'opposant s'était retiré de la salle d'audience avant les réquisitoires en dénonçant les partis pris. La Cour avait rejeté sa demande de report d'audience présentée pour vice de forme. Monsieur Muyambo a été arrêté durant les 3 journées de meute à Kinshasa du 19 au 21 janvier 2015. Il était parmi les leaders de la manifestation. Il est accusé d'avoir vendu illégalement plusieurs immeubles appartenant à un ressortissant grec, Emmanuel Stoupis, au Katanga, dans le sud-est du pays. M. Muyambo était avocat et collaborateur de Moïse Katumbi et ancien allié du président Joseph Kabila. M. Katumbi a lui aussi été condamné dans une affaire similaire d'expoliation d'immeubles liés au même plaignant.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La nomination par le président Donald Trump de Nikki Haley au poste de représentante permanente des États-Unis à l'ONU a été approuvée mardi à une très large majorité par le Sénat, 96 pour et 4 contre, dont de nombreux démocrates ayant entériné la nomination de la gouverneure républicaine de Caroline du Sud. Malgré son manque d'expérience internationale, cette fille d'immigrés indiens, âgée de 45 ans, a apparemment impressionné plusieurs membres de l'opposition grâce à une ligne moins isolationniste et unilatérale que celle du président Trump, qui a adopté l'Amérique d'abord comme principe de politique étrangère.
Suite des premières mesures du président Donald Trump, hier, le décret autorisant la construction d'un gigantesque oléoduc de 1900 km reliant le Canada aux États-Unis a été signé. Claire Morin-Gibourg.
L'oléoduc Keystone XL avait été bloqué par Barack Obama au nom de la lutte contre le changement climatique. Au lendemain de l'annonce du retrait du TPP, l'accord de libre-échange Asie-Pacifique, Donald Trump continue d'annuler méthodiquement les actions de son prédécesseur démocrate. La construction de cet oléoduc est néanmoins conditionnée à une renégociation avec la société canadienne TransCanada. Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, s'est félicité de cette décision. Aux États-Unis, si le camp républicain a affiché son enthousiasme, les défenseurs de l'environnement sont déçus. Le sénateur Bernie Sanders a déploré, je le cite, que la priorité soit donnée au profit à court terme de l'industrie des énergies fossiles par rapport à l'avenir de notre planète. Pour l'organisation Friend of the Earth, les Amis de la Planète, le président américain a clairement signifié son allégeance aux groupes pétroliers et aux banques de Wall Street au détriment de la santé publique et de l'environnement.
Israël a annoncé hier la construction de 2500 logements de colonisation en Cisjordanie occupée. Il s'agit là de la plus importante annonce du genre depuis des années et elle exploite, selon certains observateurs, de nouvelles réalités à Washington, a priori plus favorables au gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pineau sur VOA Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Le champion en titre éliminé dès la phase de poule. Pas inspiré, la Côte d'Ivoire a encore été battue hier soir à Oyem par le Maroc, entraîné par un certain Hervé Renard. Les Lions de l'Atlas l'emportent 1-0 grâce à un but d'Alioui à la 64e minute de jeu. Hervé Renard a donc réussi son pari et espère aller loin dans cette compétition avec le Maroc.
C'est une nouvelle compétition qui commence avec des matchs couperets, des matchs qui vont ressembler à celui-ci, où il faut trouver des ressources physiques, où il faut avoir un mental de gagneur. Puisque quand on atteint les quarts de finale, il faut penser qu'on a une chance de pouvoir gagner. Tout en restant réaliste, ne pas se présenter sur le terrain la prochaine fois en pensant qu'on est supérieur à nos adversaires, c'est faux. Il y a des équipes qui sont supérieures à nous dans cette Coupe d'Afrique, mais quand elles sont en face de nous, il va falloir qu'elles le prouvent.
Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, qualifié pour les quarts de finale de la CAN. Côté ivoirien, c'est la soupe à la grimace. Terrible retour en arrière pour la sélection ivoirienne qui avait franchi le premier tour des 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Pas inspiré, le champion en titre et son sélectionneur font grise mine. Michel Dussuyer sait que son bilan est mince et se sait menacé.
C'est une déception immense ce soir, quoi. Et je suis extrêmement déçu. J'ai une pensée aussi pour tous les Ivoiriens qui sont extrêmement déçus. Ce sont des moments qui ne sont pas faciles à vivre. La responsabilité, je l'assume. On est toujours entraîneur, on est toujours en première ligne. J'assume cette responsabilité. Après, épiloguer sur ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire, je sais que le débat aura lieu. Ce soir, je suis extrêmement déçu.
Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Réaction recueillie à OIM par Amine Birouk pour VOA Afrique. Et ce matin, le Maroc prend la deuxième place de ce groupe C puisque les Léopards de la République démocratique du Congo terminent premier avec une belle victoire 3-1 contre le Togo. L'inévitable Junior Kabananga a ouvert le score pour les Léopards en première mi-temps avant que Firmin Moubélé ne double la mise au retour des vestiaires. Paul-José Mpoku inscrira même un troisième but pour les Congolais en fin de rencontre. Les Éperviers avaient réduit le score par Fodo Laba. Florent Mbengue, le sélectionneur congolais, forcément satisfait après le match.
On joue nos matchs pour les gagner. On aurait voulu être qualifié plus confortablement après le second match. Donc on s'était mis une pression par rapport à ce troisième match qui aurait pu être dangereux. Mais bon, voilà, on est passé. Maintenant, il faut bien se reposer pour jouer ce quart de finale. Là, ça fait deux éditions suivantes qu'on arrive en quart de finale. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé aussi dans le temps, mais on a envie de passer ce match-là.
Florent Ibengue, le sélectionneur congolais. Déception en revanche côté togolais avec la blessure du gardien en début de match qui a perturbé la rencontre des Éperviers, comme l'explique Claude Leroy, le sélectionneur du Togo.
Donc on était 0-0, on était bien. Puis ce premier but nous a un peu cassé psychologiquement. On s'est dit, enfin les joueurs, on a senti qu'ils avaient pris un coup derrière la tête. Alors que moi je leur ai dit à la mi-temps, même si on est mené 2-0, la preuve c'est qu'à 2-1, on a une occasion de revenir à 2-2. Après tout peut à nouveau basculer, le foot ça va tellement vite. Mais bon, c'est la vie du foot, bravo à l'RDC. On a eu trop de problèmes de gardien de but à résoudre dans cette compétition pour pouvoir aller plus loin. C'est invraisemblable d'avoir connu autant de drames personnel ou de blessures et tout. Merci au terrain parce que le terrain est responsable de beaucoup de blessures et ça c'est très grave.
Claude Leroy, le sélectionneur du Togo sur VOA Afrique. Réaction recueillie à Port-Gentil par Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre partenaire. Le verdict a été rendu lundi dans le groupe B, vous le savez, il a été sans appel pour les Algériens qui quittent la compétition par la petite porte. Et cette élimination du mondialiste 2014 a inspiré Jules Valentin pour son coup de sifflet.
Bonjour. Le bide absolu de cette CAN 2017 vient de se produire à Franceville avec l'élimination impensable du super favori algérien qui a entraîné dans sa chute son sélectionneur belge Georges Lekens, démissionné dans la foulée. Plus que le résultat sportif, c'est la manière et la désinvolture des joueurs qui laissent les observateurs perplexes. Il est clair que c'est dans la gestion d'ensemble de son parcours de poule que l'Algérie a péché. Pour avoir regardé de haut d'entrée l'équipe la moins cotée, le Zimbabwe, les Fenech se sont retrouvés sous pression dès le second match face à leur éternelle bête noire, la Tunisie. La perte de cette rencontre capitale a rendu caduque l'engagement de la dernière journée. En fait, l'Algérie est depuis belle lurette une énigme dans l'histoire de la CAN. Malgré une pléthore de joueurs d'exception comme Rachid Mekloufi ou Lalmas dans les années 70, il a fallu attendre l'avènement de la génération Madjer des années 80 pour avoir des résultats. Le cru actuel a aussi suscité des espoirs après son épopée réussie du récent mondial brésilien, mais ses acteurs, nés à l'extérieur et habitués au confort des grands clubs européens, ne paraissent pas aussi motivés quand ils jouent en Afrique. Nul doute qu'après le fiasco gabonais, les Algériens se rappelleront désormais du fameux adage du fabuliste. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est le seul mal qu'on leur souhaite. À demain.
Et ce jeudi, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte. Les Black Stars, déjà qualifiés, auront fort à faire face aux Pharaons, qui ne sont pas assurés de la qualification. Le Mali, lui, est en embuscade face à l'Ouganda et devra absolument l'emporter, comme l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Dolangmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0 but partout, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour l'écart avec 6 points. Les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grises Ougandaises. Une telle victoire améliorerait leur chance d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les Pharaons, un match où les Égyptiens mettront toute leur force dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, les Grises Ougandaises déjà éliminées, mais qui aimeraient rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017. Il ne leur reste plus qu'à jouer leur meilleur football et prier pour un miracle. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Merci Timothée, c'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous ce soir sur VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Sédoudia, en votre compagnie, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la Minute Éco, Arzuma Compaoré.
Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, est arrivée à Bangui pour une mini-tournée africaine. Les donateurs de la République centrafricaine, dont le FMI, se sont par ailleurs engagés le 22 novembre à Bruxelles à aider à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur les trois prochaines années ce pays dévasté par la guerre. Un résultat alors jugé positif par le président Faustin Archange Touadéra. Madame Lagarde quittera Bangui mercredi après-midi pour se rendre en Ouganda où elle restera jusqu'à vendredi. Le marché des couches et lingettes se porte bien. C'est du moins ce que le chiffre d'affaires de 115 millions d'euros du leader algérien Faderco laisse penser. Leader algérien de l'industrie papetière, spécialisé dans le domaine de l'hygiène corporelle, la société a été créée en 1986 et est spécialisée dans la fabrication de coton-tige. La compagnie qui emploierait aujourd'hui plus de 1700 salariés occupe un marché domestique de 40 millions de consommateurs. Un marché qui est devenu trop étroit pour la société algéroise qui a ouvert en décembre 2015 un deuxième site de transformation à Sétif et s'apprête à en inaugurer un troisième.
La Gambie maintenant, le nouveau président Adama Barrow attend cette semaine un rapport sur la sécurité avant de rentrer à Banjul. Pour leur part, des soldats de la CDAO continuent de préparer son retour. Réfugié à Dakar, M. Barrow a demandé à la mission militaire ouest-africaine de rester 6 mois dans le pays. Pour savoir les défis qui attendent le président Barrow, Eric Manirakiza a joint à Londres Fatou Diagne de l'ONG Article 19.
Aujourd'hui, le président Diame devient une histoire. Mais le président Diame était aussi un système. Donc il est clair que le président Diame est parti, mais son système doit être vu. Et je pense que c'est ça le plus grand défi.
Après 22 ans de pouvoir et sa tentative de s'y maintenir, vu la manière dont il est parti, concrètement, comment gérer d'après Yahya Diame?
C'est une Gambie nouvelle qui a suivi ses élections, suivi la campagne. Vous savez que c'était ce slogan qui a tout au long rythmé cette campagne électorale qui a donné victoire à la coalition de 7 partis. Et aujourd'hui, la Gambie commence à vivre une nouvelle ère. Et c'est une nouvelle Gambie, une Gambie qui va être unifiée. C'est un défi. C'est ce que les Gambiens ont voulu en votant pour une coalition. C'est une Gambie aussi qui doit se réconcilier. Parce qu'après 22 ans, il y a eu tellement de difficultés. L'état de droit a été sapé. Donc il va falloir reconstruire les bases de l'état et essayer de consolider l'état de droit pour permettre à tout un chacun de pouvoir jouir de ses droits. Et aussi de faire en sorte que ce qui s'est passé pendant ces dernières 22 ans puisse être utilisé comme une leçon pour l'avenir. Et c'est là où c'est important la réconciliation nationale. Mais qui dit réconciliation nationale dit vérité. Donc il est évident que cette commission qui pourra peut-être avoir plusieurs formes, qui aura peut-être un nom différent d'une commission vérité-réconciliation qu'on a connue dans d'autres pays, va être une commission qui permettra aux Gambiens de pouvoir se chercher et de pouvoir dire à leur façon leur histoire, leur douleur, et se pardonner pour aller de l'avant et pour donner confiance aux populations.
Est-ce que vous pensez que le nouveau président est bien préparé pour assumer ses responsabilités et gérer cette crise qui n'est pas terminée?
Maintenant, le travail commence. Le président Barrow est entouré, comme je vous l'ai dit, c'est une coalition de 7 partis politiques. Les attentes sont très importantes en Gambie, surtout de la jeunesse, et nous espérons qu'il saura tirer un profit de la situation actuelle et faire revenir tous les Gambiens qui sont compétents pour former un gouvernement et aussi apaiser les cœurs et permettre à la Gambie de tourner la page et de travailler pour son développement.
Fatou Diagne de l'ONG Article 19 à Londres. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, David Gressley, vient d'achever une tournée dans la province du Tanganyika où ont eu lieu des tueries entre pygmées et bantous. M. Gressley a aussi évalué le processus électoral entré maintenant dans la phase identification et enrôlement des électeurs avec les partis politiques et la société civile. Précision de notre correspondant Narval Mabila.
Suite au conflit pygmé-bantou, il a été à Moba, Manono, Kalemim, Poueto, ce qui lui a permis de faire un état de lieu sur la situation qui continue à faire de morts, des viols et des déplacés.
Nous avons documenté plus de 150 morts sur les deux côtés, en fait. C'est pas seulement sur un côté ou l'autre. Plus de 50 viols et des centaines de blessés. Donc on ne peut pas nier tout ça. Et je crois que la situation est très préoccupante. J'étais aussi avec les humanitaires quand j'étais à Kalemi. Ils ont dit que selon leurs estimations, il y a à peu près 380 000 personnes déplacées dans la province. Et certaines sont venues même ici, dans le Haut-Katanga, que la situation reste très sérieuse, très tendue. Je crois qu'on doit augmenter nos efforts aussi. On a augmenté notre force sur le terrain pour essayer de calmer les choses et ça a réussi. Nous avons aussi commencé des patrouilles conjointes avec le FRDC. Nous avons aussi beaucoup de discussions avec les autorités, avec les chefs coutumiers, avec d'autres stakeholders et ils ont tous demandé la même chose.
Du côté des ONG de droits de l'homme qui suivent de près les conflits, le regard est accusateur. Au banc des accusés, la MONUSCO et certains leaders politiques congolais. Explication de M. Edouard Kiempele qui est de l'ONG Union de défense de droits katangais.
Le triangle de la mort c'était Mitwaba, Manono et Ankoro. Aujourd'hui, chose grave, on est en train de se rendre compte que c'est Nyunzu, Kabalo vers Kalemi. Les pygmées qui tuent le Bantou et précisément la Balbakat. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on a déploré cette situation. Les autorités sur place, ils n'arrivent pas à trouver la solution sur ce point. On se demande pourquoi. Donc, il y a ceux-là qui sont sur terrain. Ils accusent la MONUSCO, ils accusent les autorités congolaises. Certaines autorités, les autorités congolaises doivent en tout cas prendre les responsabilités sur des tueries.
Entre-temps, d'autres accusations font planer l'ombre de Hutu Rwandais derrière les pygmées. Face à toutes ces accusations, les représentants spéciaux, adjoint secrétaire général de Nations Unies, y a répondu.
Ouais, en fait, c'est pas du tout vrai. Nous restons impartiaux dans tous ces genres de choses. On n'est pas ici pour donner un appui à une communauté ou une autre. Nous sommes ici pour donner un appui pour la population en général. On a été accusés par les deux côtés, en fait.
Ici, à Lubumbashi, David Gressley s'est entretenu avec les membres des partis politiques et la société civile sur les processus électoraux qui est à l'étape d'identification et d'enrôlement des électeurs où on y déplore les nombres réduits des centres d'enrôlement, les monnayage des services, l'insécurité des électeurs tués par balles et blessés par certains policiers. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Nigeria, une équipe de 6 officiers supérieurs de l'armée de l'air est arrivée dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, pour commencer l'enquête qui doit permettre de déterminer comment un jet militaire a pu larguer 2 bombes sur un camp abritant des civils déplacés. Certains secteurs ont souhaité que l'enquête soit confiée à une équipe plus large, incluant aussi la société civile. C'est le cas pour le docteur Thomas Nierlet de MSF Suisse.
On est arrivé à Rann le 14 janvier, la première fois que la population, à peu près 15 à 25 000 personnes prises au piège dans le conflit entre l'armée nigérienne et Boko Haram, a été accédée par des acteurs humanitaires. Et après 3 jours sur place, où on a fait principalement la vaccination, on a identifié des enfants mal nourris, le 17 janvier, un avion a bombardé à 2 reprises le camp de déplacés.
C'était l'armée de l'air du Nigeria ?
Oui, clairement. C'est les seuls qui ont la capacité aérienne dans la région. Et en plus, ils ont reconnu quand même très très rapidement après l'incident leur responsabilité.
Et le bilan semble-t-il l'a quadruplé ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de clarté par rapport au nombre réel des victimes. Nous, ce que nous avons vu sur place, c'est au moins 90 décédés suite au bombardement. La communauté a rapporté jusqu'à 200. C'est des chiffres que nous, on ne peut pas vérifier.
Un point sur lequel il faudra faire la lumière, c'est encore l'armée qui a commencé l'enquête ce mardi.
Tout à fait. Hein. C'est difficile de croire que finalement une enquête interne de l'armée va donner toute la lumière à l'histoire. Cette population qui est particulièrement affectée, voire meurtrie par un conflit qui dure depuis très longtemps, ils ont besoin des réponses. Hein. Il faut rendre compte de ce qui s'est passé, surtout parce que cette population elle s'est réfugiée à Rennes pour finalement fuir le conflit, les violences. Ils se sont sentis en sécurité dans un camp qui était complètement contrôlé par le militaire nigérien.
Comment, selon vous, cette enquête devrait-elle être menée?
Selon nous, il y a clairement un besoin d'une certaine objectivité et de l'indépendance. Et on a quand même l'impression que cette indépendance n'est pas garantie si l'enquête est menée par les forces qui eux-mêmes ont provoqué ce drame atroce.
Eh bien, c'était le docteur Thomas Nierlet de MSF Suisse. Au Cameroun, les connexions Internet sont coupées depuis quelques jours dans les régions anglophones. Cette situation paralyse les activités des citoyens. Internet sans frontières déplore l'attitude des autorités camerounaises et appelle à un retour à la normale. John Lyndon a joint à Paris Julie Owono, avocate et responsable Afrique de cette organisation.
Il se trouve que cette décision coïncide malheureusement avec la situation très tendue, extrêmement tendue que l'on observe dans les régions anglophones depuis plus de 2 mois maintenant, à savoir des manifestations qui sont réprimées, parfois dans l'extrême violence, puisqu'il faut se rappeler que l'on a déploré la mort de 2 manifestants au mois de décembre et que de nombreux étudiants avaient été molestés par les forces de l'ordre et les images avaient circulé sur la toile. Donc cette coupure Internet intervient dans ce contexte et ne peut que nous laisser penser qu'elle a été utilisée pour masquer d'une part la protestation grandissante, couper la manifestation en elle-même, c'est-à-dire stopper la circulation de l'information sur la manifestation et surtout stopper la circulation de l'information sur la répression et la tension qui règne dans les régions anglophones du Cameroun actuellement. Cela est totalement inacceptable et c'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés et que nous avons sollicité le gouvernement du Cameroun pour le rétablissement d'Internet dans les régions anglophones.
Les autorités camerounaises semble justifier cette décision par le fait que les nouvelles non fondées circulent très souvent sur les réseaux sociaux et que cela peut déstabiliser le pays.
L'habitude depuis quelques années, effectivement, que des États, en l'occurrence le Cameroun, utilisent la question de la rumeur, de l'atteinte à l'ordre public pour justifier la censure sur Internet. Sauf qu'il existe des règles internationales et le Cameroun a signé et ratifié de nombreux traités internationaux qui protègent les libertés et qui évidemment permettent à l'État de réprimer en temps nécessaire, mais à des conditions très strictes. La première condition, c'est qu'effectivement il y a une atteinte à l'ordre public, sauf que ce n'est pas à l'État seul de dire qu'il y a atteinte à l'ordre public. Il faut que ce soit une autorité judiciaire qui confirme et qui atteste qu'il y a une atteinte à l'ordre public qui nécessite une limitation des libertés publiques. Or, dans le cadre des figures actuelles du Cameroun, à aucun moment un juge n'est intervenu pour expliquer que là où on se trouve, il faut que l'État intervienne pour réprimer les libertés. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça qui, pour nous, potentiellement constitue la violation, une violation du droit international des nombreux engagements du Cameroun sur la question des libertés fondamentales.
De quelle voie de recours disposent, à votre avis, les populations dans un tel contexte?
Malheureusement, aujourd'hui, la seule voie de recours, c'est la mobilisation citoyenne, comme celle qui a lieu actuellement au Cameroun. De nombreux citoyens qui, eux, ont continué à avoir accès à Internet, puisque Internet est coupé uniquement dans les zones anglophones. De nombreux citoyens utilisent aujourd'hui leur connectivité pour alerter, interpeller les autorités, à travers notamment ce qu'on appelle un hashtag, c'est-à-dire un mot utilisé sur le réseau social Twitter pour dénoncer cette coupure et surtout appeler les autorités à y mettre fin.
Julie Owono, avocate et responsable Afrique d'Internet sans frontières.
Dans
Washington Forum ce jeudi, Donald Trump, dès son entrée à la Maison-Blanche, s'est attaqué à la loi sur l'assurance maladie Obamacare et a retiré les États-Unis du partenariat transpacifique. Depuis, s'en sont suivis plusieurs décrets présidentiels. Un début de mandat marqué aussi par les différentes manifestations anti-Trump massives aux États-Unis et à travers le monde. Alors, jusqu'où ira Donald Trump dans la rupture? Quelles conséquences et quelle est l'influence de ces manifestations? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.